Francis Jammes, le poète et l'inspiration. Le poète est ce pèlerin que Dieu envoie sur la terre pour qu'il y découvre des vestiges du paradis perdu et du ciel retrouvé. Le poète est ce pauvre assis à midi sur le perron du vieux jardin où le premier homme et la première femme furent si beaux. Il tient dans sa main sa sébile et son chien à ses pieds. Il demande aux passants distraits et à Dieu même l'aumône de la beauté qui fut, qui est et qui sera. Mais les passants ne daignent point jeter les yeux sur lui. Ils ne voient pas la douleur de ce regard. La seule créature qui ait compassion en silence est le chien immobile. Mais Dieu laisse choir dans la sibylle du pauvre poète l'azur du ciel tout entier. Ô Fra Angelico, tu te saisis alors de cet azur, tu l'exprimes sur ta toile telle qu'il t'est donné de l'apercevoir en cette heure inspirée qui rejoint l'extase. Et vous, mes frères, recevant aussi la faveur de ce ciel qui est tout entier à chacun, dans votre main tendue, vous en tissez votre tente, vous vous en enveloppez comme les vierges et comme les collines. Et tant est pure cette lueur divine que vous revêtez, qu'elle vous cache aux yeux des profanes. Ainsi la campanule d'août, si blanche, à force d'être bleue, semble s'évanouir. Et le poète naît, passe et meurt, comme la fleur des champs, qu'à peine on remarque. Le poète est celui qui observe, à travers la haute grille du parc, les couples fondus au bleu de la nuit, et qui entend la grêle invitation des mandolines. Il n'est pas convié à la fête, mais le volubilis blanc des ténèbres franchit la grille, se penche vers lui, qui seul en découvre tout le miel et toute la chaleur chaude neige. Et tandis que les rumeurs amoureuses des belles couvrent le chant du rossignol, ce chant n'est perceptible qu'au poète, dont le poète cœur s'emplit de la divine harmonie comme une source d'eau pure qui répond au chant de l'oiseau. Et j'entends Saint Jean de la Croix qui loue la nuit paisible, la musique silencieuse, la solitude harmonieuse, le souper qui charme et qui accroît l'amour, le bouquet de roseux en forme de pomme de pin, l'aspiration du zéphyr, le chant de la douce Philomèle, le bois avec ses charmes durant la nuit sereine, avec la flamme qui consume et ne cause pas la douleur. Le poète est celui qui, n'ayant rien, reçoit tout, qui renonce à sa coupe grossière pour boire même le reflet flair du ciel, l'étudiant que chantait il y a bien des siècles dans un poème ineffable, Chu Kwang Hi. Quand le soleil couchant cesse d'éclairer la fenêtre du nord-ouest, alors que le vent d'automne dépouille en sifflant les bambous, l'étudiant s'approche de la fenêtre méridionale, car ses yeux ne quittent guère son livre et toujours il est attentif. Il songe à l'Antiquité en voyant la mousse et les grandes herbes. Il regarde, il écoute, il jouit profondément de son calme et de sa solitude. Peut-être demanderez-vous ce qu'il fait pour se procurer du moins sa subsistance. Il coupe du blé et demi-sauvage dans les terrains abandonnés. Le poète est celui qui, dans la besogne fastidieuse et terre à terre du comptable, dans la lassitude et l'amertume, dans la monotonie de la poussière bureaucratique, sous l'aiguillon d'un patron acerbe, découvre le profil lumineux d'une petite fille de 5 ans et sur la table de servitude un morceau de pain pour l'enfant. Le poète est celui qui, en le frappant de son bâton, fait jaillir du roc dans le village altéré l'eau qui s'avance à plein bord dans l'épais herbage. Et les usines naissent avec leurs tulipes de feu. Des maisons ouvrières s'élèvent avec de gais jardins et des rumeurs d'enfants, parce que, le génie du poète a découvert cette veine de cristal joyeux. Cependant, lui seul est pauvre, lui seul est magnifiquement dépouillé, comme cette eau nue où se réfléchissent les cieux. Le poète est celui qui, l'oreille pleine du silence que l'on fait autour de lui, ou du bruit de l'insulte, entend monter de son cœur, comme d'un temple, le chant des séraphins et la voix de la sagesse. Le poète est celui qui, n'ayant point pressé entre ses bras l'épouse victorieuse et belle, se saisit de l'argile dont nous sommes pétris et sculpte la beauté. Le poète est le jeune homme que je vis un jour à Anvers il y a 25 ans, tout enveloppé d'obscurité et dans une mansarde, une telle obscurité que son père me dit « Oh, les bourgeois de la cité ont oublié qu'il existe !» Il ne me dit point un seul mot quand il me vit entrer. Il profitait de cette nuit profonde pour découvrir à l'extrémité de l'abîme une étoile sans nom. Le poète est celui qui, se penchant vers l'enfant qui s'agite sur sa couche, fixe d'un regard charitable la mère angoissée. Et il fait ruisseler sur le malade cette fraîche vertu des eaux qu'il a découverte, ou lui donne d'une sourde écorce salutaire recueillie dans la forêt tropicale, ou bien au Dieu sourit parmi les lianes flamboyantes. Et la température tombe doucement au crépuscule. Le poète est celui qui va sur la mer. Il saute dans les skiffs que le long flot balance. Et le brouillard recouvre le port où sa femme et ses enfants l'attendent sans jamais le voir revenir. Mais il fallait qu'il partît, qu'il fût partagé, comme entre deux montagnes, par ces deux sentiments contraires et sublimes, la tendresse de l'obscur foyer et l'âpre recherche de cette nourriture que prennent les filets sur la plaine liquide et sans froment. Le poète est celui qui va dans la forêt. Tantôt, comme dans la chanson du vieux marin, il y rencontre l'ermite et la noce joyeuse et il se réjouit des flûtes, des oiseaux, du bon pourpré des écureuils, des tapis de fleurs et de mousse et des détails inépuisables comme la science des nids. Et tantôt, le bois n'est qu'une croix nue. Le poète est celui qui, dans sa main, prend un grain de blé pareil à un gravier commun, et il y voit la forme réduite du pain que l'enfant de l'ouvrier apporte sous son bras, et la moisson avec les bluets, les coquelicots, et les cris d'insectes, et l'église et le prêtre qui monte à l'autel, et le voyageur mystérieux qui, dans le soir d'Emmaüs, mêle la lueur de son front à la lueur de l'hostie. Le poète, c'est l'homme à qui Dieu restitue la splendeur. Et d'abord, je vois Noé chantant sous l'arc-en-ciel définitif le cantique du pacte de la délivrance. Et puis, il se promène dans sa vigne bien soignée. Et chaque grain mûr de sa treille lui apparaît comme un œil transparent ou plein de soleil blond ou brun fixé par le Seigneur. Et ensuite, je vois Abraham sous les chaînes de Mambon. Sa tente est une meule d'or toute crépitante d'épis, et dans la splendeur accablante, ne sachant pas que faire pour son Dieu qui lui apparaît et qui l'adore, il lui donne du pain à manger. Puis, exhalant, si je peux dire, la gloire de la moisson caniculaire, s'y plongeant avec majesté, le vieux Bose voit Ruth surgir à l'horizon des orges. Et il laisse la glaneuse goûter à l'eau vinaigrée des faucheurs. Et désormais les obscurs tâcherons, trempant leur pain dans ce pauvre breuvage, qui pourront goûter la saveur divine que la Moabite y a laissée, parce que l'amour du patriarche s'accumulait dans le ciel pour elle et s'avançait comme un doux sage qui gronde. Béni soyez-vous, hommes, qui dans vos cœurs ensemencés par une inspiration divine, fertilisés par elle, découvrez les terres promises et leur faune et leur flore et leurs pierres, elle est pénétrée de ces mêmes rayons qui rendent la montagne transparente et font vibrer les aigrettes sur le front de Moïse. Et quoi, vont me dire quelques-uns, n'allez-vous pas bientôt assimiler aux saints et aux grâces qu'ils reçoivent ces hommes plutôt méprisables, qui, les cheveux couronnés de narcisses, la flûte aux lèvres, se plaisent à instruire les sansonnets? Ces hommes encore à qui les siècles prêtent tant de folie, comme d'immoler un bouc sous des rosées. Assimiler aux saints les poètes en général, Dieu m'en garde. Et quelque admiration que je professe pour Verlaine, je ne me réserverai pas à le mettre en face de Saint Jean de la Croix. Et pourtant, Verlaine a écrit Sagesse, que François d'Assise eût signé. Et je demeure confondu devant cet abîme de pureté, dont les parois portent des lys et se voilent de nuages d'encens, lorsque je sais qu'en même temps, il écrivait ce livre parallèlement, où les vices les plus rares et les chairs les plus lourdes se donnent rendez-vous. Que conclure avec logique, sinon avec un poète de nos jours, que le monde est entraîné dans une danse que conduisent les rythmes sur leurs violes, les deux races d'anges, les bons et les mauvais. Et ne puis-je situer dans cette sorte de pénombre musicale et spirituelle où le mal et le bien se confondent, où l'homme tantôt entend les accords séraphiques, tantôt enregistre les voix spécieuses des démons, des poètes tels que Verlaine, Rimbaud, Charles Baudelaire et tant d'autres. Ils vivent leur poésie à la manière, hélas, dont trop souvent le chrétien mène conduit son existence. Il s'approche du marécage à midi quand le nénuphar blanc semble l'inviter le plus à le cueillir. Il ne fait tout d'abord que d'admirer cette neige, mais bientôt, hélas, il la souille en y portant la main. Et il pleure, repentant de voir cette fleur naguère immaculée, ternie maintenant, livrée aux mains des démons dont toute la joie réside dans le salissement de ce qui est vierge et dans la rupture de l'harmonie. Mais sans doute ceux-ci l'ont trop compté sur la faiblesse du poète disgracié. Peu de vrais poètes, aucun vrai poète, ne pêche contre l'esprit. Et c'est alors que, au souffle mélodique et par les bons anges, dans un sursaut inattendu, le poète, se ranimant, se vivifiant, arrache aux mains des maudits la fleur et se plonge avec elle dans la source candide où la Vierge lave et absout. Un jour, cette difficile question me fut posée. Quelle place occupe donc le poète dans les états contemplatifs? Je réponds simplement, le poète occupe dans la mystique, selon le bien qu'il fait aux âmes, la place d'un mortel quelconque, mais en fait, il a ce privilège d'entendre mieux qu'un mortel ordinaire les voix qui nous découvrent le ciel. C'est, il me semble, Saint Bernard qui dit que les personnes qui jouissent de suréminentes grâces par l'extase ou le mariage spirituel, ne pouvant de là qu'elles sont redescendues de ces états, nous en faire part, acquièrent, du moins, cette faculté de nous les communiquer en quelque mesure dans un langage ravissant, imagé, que les anges leur inspirent. Cette opinion de Saint Bernard me paraît tout à fait juste. Je ne peux me refuser, lorsque je lis le cantique spirituel, à penser que les anges ont passé par là. De fleurs et d'émeraudes choisies pendant les fraîches matinées, nous tresserons d'Irlande que votre amour a fait fleurir et que lie un seul de mes cheveux. Ce seul cheveu que vous avez considéré volant sur mon cou, que vous avez regardé sur mon cou, vous a retenu prisonnier et un seul de mes yeux vous a blessé. Cantique spirituel, strophes 30 et 31. Comment ne pas trouver en de telles expressions la marque d'une espèce qui s'exprime à l'aide de tout ce qu'il y a de plus beau sur la terre pour nous suggérer quelque idée du ciel et qui aspire dans ce but les plus sensibles des lyres, les lyres des poètes mystiques. Les feuilles et les fleurs, les prairies brillantes, toute la symbolique des pierres précieuses, les plus doux animaux viennent au secours de l'âme désireuse de se faire entendre. Est-ce à dire que tout mystique soit un poète? Oh, je me garderai de l'insinuer au sens naturiste du mot, encore que la grande Thérèse, dans le désert sans image où elle étend ses ailes d'aigle, puisse prétendre ce titre dans le sens le plus élevé. Mais ni un saint Thomas d'Aquin, ni un Vincent de Paul, ni une sainte Thérèse n'entrent dans les vues de mon sujet, quelle que soit la sublimité de leur rôle. Je conclus donc à ce qu'un mystique religieux, un vrai mystique, n'est pas nécessairement un poète. Mais le réciproque n'est point exact, et j'affirmerai hardiment que dans tout vrai poète, dans tout poète exprimant une pensée et un sentiment pur, il y a un mystique. Et même s'il n'est mystique et donc pur que dans une partie de son œuvre, que conclure, sinon que cette partie demeure acquise à la contemplation? Dût-on procéder, par ailleurs, à ce départagement du bon et du mauvais esprit qu'impose parfois l'examen du saint le plus authentique? Quelle part faut-il faire à l'imagination dans l'œuvre édifiante pourtant d'une Catherine Emmerich, à l'inspiration démoniaque dans la vie d'une Marie de Jésus crucifiée? Ici, toute latitude est laissée, tout jugement à l'autorité de l'Église. Mais avec le poète, nous en venons à des régions plus modérées, qui n'engagent point à ces solutions capitales. C'est pourquoi nous apprécions ces œuvres selon leur valeur relative, sans nous prononcer en dernier ressort, sachant qu'une légère différence en plus ou en moins ne tire pas toujours à graves conséquences. Il est utile, cependant, que dans ce domaine modeste de la poésie toute simple, une classification s'impose. Du poète que l'esprit du mal domine, du poète qui, dans son expression, encore qu'il ne tente pas directement à la louange de Dieu, glorifie du moins son œuvre, sa création, du poète qui, soit dans une description de nature, soit dans l'exposition d'un sentiment, de l'amour par exemple, s'élève peu à peu à ce frisson sacré où nous sentons par instant, si je peux dire, le tremblement de Dieu, le vent d'une aile d'ange. Des poètes uniquement voués au mal. Ils ne sont point poètes en vérité, mais je ne nommerai aucun. À quoi bon? Ils appartiennent bien à la mystique, mais dans un tout autre sens que celui que nous prêtons ici à cette science. Ils ressortissent à la démonologie, à l'imprégnation, à l'obsession, à la possession diabolique. Parmi les poètes descriptifs, il faut comprendre la plus grande partie de ceux de l'Antiquité, notre Pléiade, bon nombre de romantiques. Certes, un Théocrite, un Virgile, un Ronsard, un Musset n'entrent point toujours facilement dans notre cadre, mais parfois, à la surface même de leur paganisme, un sentiment mystique se dégage, et pure l'inspiration. Le départagement est souvent difficile. Les derniers, mais les plus hauts dans notre essai de mystique, sont de la race d'un Dante, d'un Cervantes, d'un Lamartine, du Verlaine de sagesse, du Claudel. Tous n'atteignent point ces maîtres, mais beaucoup leur sont supérieurs, dont les feuillets sont épars et souvent dispersés. Les plus beaux chefs-d'œuvre n'ont pas été sans doute formulés par ceux que la gloire couronne du vert laurier. Avez-vous parfois songé à la crypte où dorment les plus grands poèmes que Dieu seul a connus? Là se rejoignent les anges et les hommes de l'ombre. À l'un de ceux-ci, à Coventry Patmore, j'emboîterai cette courte page qui montrera le lien ineffable par quoi la nuit épouse l'aurore et la terre le ciel. Mon petit garçon, dont les yeux ont un regard pensif et qui dans ses mouvements et ses paroles a les manières tranquilles d'une grande personne, ayant désobéi pour la septième fois à ma loi, Je le battis et le renvoyai durement sans l'embrasser, sa mère qui était patiente étant morte. Puis, craignant que son chagrin ne l'empêchât de dormir, j'allai le voir dans son lit, où je le trouvai profondément assoupi, avec les paupières battues et les cils encore humides de son dernier sanglot. Et je l'embrassai à la place de ses larmes, laissant les miennes. Car, sur une table tirée près de la tête, il avait rangé à portée de sa main une boîte de jetons et un gal à veines rouges, un morceau de verre arrondi trouvé sur la plage, une bouteille avec des campanules et deux sous français, disposés bien soigneusement pour consoler son triste cœur. Et cette nuit-là, quand je fis à Dieu ma prière, je pleurai et je lui dis « Ah, quand à la fin nous serons là, couchés et le souffle suspendu, ne nous causant plus de fâcheries dans la mort, et que vous souviendrez de quelques joujoux nous avons fait nos joies, et combien faiblement nous avons pris notre grand commandement de bonté, alors, non moins paternellement que moi, que vous avez formé de votre limon, vous laisserez votre colère et vous direz « J'ai pitié de ces pauvres enfants. » Deux autres mystères y entraient dans l'inspiration poétique, mystères que je me borne à indiquer à peine, mais qui, si je n'ai pas ces maîtres en ces sortes de recherches psychologiques, ne m'eussent pas demandé moins de trois gros volumes, sont la situation des lieux et l'invention des personnages. Je ne saurais m'étendre autant. Je donnerais simplement comme un schéma de mes expériences personnelles. Si brièvement que je les expose, peut-être pourront-elles servir d'éléments de matériaux à ceux qu'intéresse ce genre d'études. Pour conserver le parallélisme que je me suis promis d'observer dans la mesure du possible, toute proportion gardée, entre l'état mystique et l'état poétique, je l'appellerai tout d'abord au cas d'Anne-Catherine Emmerich. On sait que cette édifiante jeune fille, tant dénigrée par les uns, tant exaltée par les autres, présente très probablement un cas dont l'analyse est telle. Premièrement, l'inspiration mystique, probable ou certaine, par quoi, en retraçant la vie de notre Seigneur, elle nous dépeint, sans les avoir jamais vus de ses yeux de chair, des bourgades, des campagnes, dont il semble que la reconstitution cadre exactement avec les réalités que remit à jour l'archéologie. Elle s'exprime durant une extase assez difficile à définir. Deuxièmement, une part d'imagination desservie par une nature incomparablement artiste. Sainte Madeleine erre autour du Saint-Sépulcre. Tel geste qu'elle fait rejette en arrière ou en avant sa chevelure sur ses yeux baignés de larmes. Il est si naturel qu'il nous choque presque en nous éblouissant. Je ne dirai point que l'inspiration poétique suive le même processus, mais si elle est moins sacrée, elle est plus sûre. Elle ne compromet rien. Je me promène au déclin du jour, en un tiède printemps, dans l'un des riches quartiers dorés et calmes qui se meurent sur une plage célèbre. Ma solitude est complète. Ce n'était pas, du moins encore, l'époque où le tourisme envahit ce beau lieu. Je prends par une sorte de petit chemin, j'aperçois à travers les feuilles naissantes une luxueuse villa. Elle est, si je peux dire, ensevelie dans le mystère si profond et si doux que revêtent les domaines dont nous ignorons complètement les hôtes. Et d'ailleurs, cette villa n'est-elle point déserte? Il se pourrait que tous les volets en soient clos, si j'en juge par les deux dont les ailes sont rabattues à cet angle qui font luire les lauriers d'Espagne. Et d'abord, de tout ce mystère, de tout ce charme clandestin que semble avoir répandu là quelques fées de la Belle au bois dormant, cette irrésistible berceuse naît et s'élève et pleure en moi. Si un beau jour, dans la forêt, tu rencontrais, dans la forêt, où fait son nid le vieux pivert, une maison avec de clairs contrevents verts, dis-toi que dans cette maison fleurit la paix. Si un beau jour, dans le jardin, ô fil vermeil, dans le jardin, où les pavots sont fatigués, tu rencontrais un pavillon inhabité, dis-toi que c'est là que fleurit le lourd sommeil. Ce n'est point sur ce motif que doit s'arrêter l'élan donné. La graine, enlevée par je ne sais quel souffle aux cimes des arbres séculaires, va germer. Le poète s'est éloigné de la maison, mais la maison en lui demeure. S'étage, se développe dans une atmosphère supérieure à celle des mille et une nuits. Une jeune fille l'habite, qui se précise, une jeune fille blonde, une jeune fille assez grande, une jeune fille forte et belle et pareille au génie de Rubens, et de charme tout anglais cependant. Et néanmoins, elle est d'Espagne. Il me semble qu'elle soit l'héroïque statue de la victoire dans l'équilibre de la santé. Et pourtant, elle est atteinte de troubles psychiques. Quels troubles? Oh, le médecin l'ignore. Mais le poète en découvre la puissante nature. Ce mal singulier n'est que l'épanouissement joyeux d'une âme incomprise, dans la joie solitaire de la villa mystérieuse qu'est la vie. Désormais, l'héroïne vivra dans l'âme du poète, et quand il atteindra ce sommet de la vie dont a parlé le plus grand des lyriques coloniaux, debout sur la colline aveuglément gravie, la vision de tout un monde situé dans le tréfonds de l'âme se clarifiera, se spiritualisera, s'étendra devant lui, qui est maintenant prêt d'entreprendre le voyage éternel.